14-18. 100 ans déjà.
Le lycée Jean Jaurès célèbre la guerre 14-18.
Bonjour à tous. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour la chronique avec les élèves de littérature et société de Jean Jaurès. Nous allons débattre à propos de la Grande Guerre avec M. Moisé, ancien professeur d'histoire et historien. Au tout début de notre projet, nous l'avions rencontré à la Maison de la Mémoire et nous souhaitions le retrouver à la fin de la réalisation pour pouvoir discuter avec lui. M. Boulet, qui s'occupe de la Maison de la Mémoire, n'a pas pu être avec nous pour ce débat. Maintenant, nous allons laisser place aux questions et aux réponses.
14-18. 100 ans déjà.
Alors, qu'est-ce que vous trouvez d'intéressant dans votre métier? Et qu'est-ce qui vous a donné envie de le faire?
Alors, être professeur d'histoire, effectivement, est un métier tout à fait remarquable. En tout cas, personnellement, je l'ai beaucoup aimé. Deux choses. D'abord, notre formation historique a été menée en université et nous avait permis de mieux cerner des méthodes. Arrivé dans un lycée, les programmes permettaient de brasser des périodes, d'évoquer des problématiques et d'arriver surtout à former, et ça a été l'élément central de mon enseignement, à former de futurs citoyens. Certes, la contrainte du programme ne donne pas toute liberté ou autant de liberté qu'on le veut ou qu'on le souhaitait, mais en même temps, dans les questions d'histoire, il y a toujours, comme la guerre, comme la révolution, comme la construction de la démocratie, des thématiques qui permettent d'enseigner à la fois les éléments factuels, mais à partir des éléments ou des événements factuels, de faire comprendre aux gens tous, et aux élèves ce qu'est la construction d'une société, quels sont les rapports et surtout les valeurs qui sous-tendent ces rapports.
On voulait savoir quel pays a le plus innové pendant la guerre au niveau des armes.
Alors là, on revient à la question centrale sur 14-18. La guerre qui commence en 1914 est encore, du point de vue militaire, une guerre globalement du 19e siècle. L'artillerie est assez forte, l'aviation est quasiment inexistante, et quelques avions qui volent servent essentiellement à l'observation. Donc on a une guerre basée sur l'infanterie. Les grandes offensives à outrance, baïonnettes au canon, comme on pouvait le voir ou le faire un siècle précédent. Alors, à partir du moment où la guerre est conçue comme une guerre courte, au tout début, on engage massivement les régiments, peu importe, à la limite, les pertes, puisque la guerre sera courte, mais elle sera victorieuse. Alors, on ne compte pas trop la vie des hommes. À partir du moment où on découvre que la guerre ne peut pas être gagnée à l'automne 14, à partir d'octobre-novembre, où cette guerre se traduit par la création des tranchées, on s'enterre, on sait que la guerre va être longue. Et d'où la guerre va devenir progressivement tout autre chose. Il faudra s'adapter. Alors, à cela, plusieurs raisons. D'abord, à l'arrière, il faut fournir les armes en permanence, d'où une économie de guerre s'organise, une industrie de guerre, d'autant que pour la France, nos régions industrielles du Nord et de l'Est sont occupées. On met au travail massivement dans ces emplois des femmes, ce qui n'était pas le cas au préalable. Et en même temps, il faut inventer de nouvelles armes. Ça se fait évidemment, dans la mesure du possible, sur le territoire. L'industrie, la métallurgie va produire des canons, va produire des millions d'obus, sur les AD. Il faudra que la chimie produise des poudres, des explosifs. Et ce qu'on ne peut pas produire dans l'immédiat, on va effectivement l'importer. D'où il y a cet autre aspect, cette autre conséquence. L'économie de guerre, c'est aussi un énorme effort commercial d'achat à l'étranger. Et d'où l'importance des alliés qui, évidemment, peuvent nous aider, notamment à partir de 17 et les États-Unis. Et dernier aspect, il faut inventer la guerre de 14-18, les tranchées, l'énorme utilisation de l'artillerie, les déplacements incessants des troupes vont obliger à inventer quelque chose qui n'existe pas. Et il est vrai que l'intelligence humaine a eu des résultats absolument terrifiants. On commence à être capable de produire des gaz, alors de manière parfois un peu artisanale, parfois aussi dangereuse pour ceux qui les utilisent que pour ceux qui sont censés les recevoir, mais c'est l'industrie chimique. C'est aussi l'amélioration de l'artillerie, de la très grosse artillerie, l'artillerie à longue portée avec des canons qui pèsent des canons de 30-40 tonnes et qui sont capables de tirer des obus de 900 kilos, une tonne, ce qui est terrifiant. Et il y a aussi les efforts qui sont faits pour l'armement individuel. Le fusil lui-même évolue, la grenade évolue, et je cite par exemple ce qui est peu connu, qu'un Aveyronnais, Bessières, a inventé, il est l'inventeur d'une grenade spéciale qu'on lançait avec un fusil, et que vous retrouverez dans les formulaires militaires sous l'appellation VB. Voilà, bon, c'était un genre d'invention. Et puis il y a eu aussi les progrès de l'aviation, puisque la marine était déjà largement modernisée, mais l'aviation va, elle, bénéficier effectivement de ce passage d'un outil d'observation à un outil de combat. Et faire d'un avion un objet de combat, ça veut dire qu'au lieu de se tirer avec un fusil, les pilotes se tirer de l'un à l'autre avec un fusil, on va être capable de tirer avec une mitrailleuse à travers l'hélice, ce qui suppose des calculs mécaniques et mathématiques extrêmement précis. Bon, voilà quelques exemples de ces progrès. Au demeurant, il n'y a pas que le mauvais progrès, il y a aussi le bon progrès, si j'ose dire. Car pour soigner les blessés, eh bien, on va faire évoluer la radiographie, certains outils médicaux, et Marie Curie est une femme qui a fait avancer cette technologie. On va aussi améliorer la chirurgie réparatrice. On va aussi, hélas, être capable de fabriquer des prothèses pour tous les mutilés et que la guerre par millions va fabriquer. Alors, il n'y a pas un pays qui a inventé plus que d'autres. Tous les pays ont contribué, évidemment, à ces progrès, mais le progrès tue parfois, et quelquefois il améliore la nature humaine.
14-18. 100 ans déjà.
J'aimerais savoir si les enfants continuent l'école durant la guerre.
Oui. Alors, le problème est posé dès le mois d'août, puisque à ce moment-là, c'est la fin des vacances scolaires. Et donc, beaucoup d'instituteurs, de jeunes instituteurs, sont mobilisés, ce qui désorganise dans un premier temps l'enseignement. Beaucoup de femmes étant institutrices, une partie donc est assurée. Et l'éducation nationale va tout faire pour que les enfants puissent continuer à fréquenter les écoles. Alors, ça passe par des artifices, il y aura des regroupements de classes pour des raisons impératives. Donc une institutrice va prendre en charge deux classes, en attendant que des recrutements puissent intervenir. L'école reste au centre de la société rurale, dont les enfants continuent d'aller à l'école. Sachez quand même que la scolarité obligatoire à ce moment-là est relativement brève, puisqu'on peut quitter l'école à 11 ans. Hein, maintenant, vous êtes en scolarisation obligatoire jusqu'à 16 ans minimum. À ce moment-là, c'était 11 ans. 14 ans, c'est en 36. 16 ans aujourd'hui. Donc, jusqu'à ces enfants sont soumis à l'école obligatoire normalement, bien ou mal, dans les conditions de l'époque. Reste le problème de la main-d'œuvre. Les pères étant partis, dans les campagnes essentiellement, les mères, les épouses, les mères vont devoir remplacer leur mari à la ferme, travailler. Et donc, il se passe cette chose tout à fait compréhensible, c'est qu'un garçon de 9-10 ans aura parfois l'obligation familiale de rester à la ferme plutôt que d'aller à l'école. Mais ce n'est pas une autorisation, c'est une adaptation devant les difficultés de la vie. Car il faut savoir que les mobilisés, donc une indemnité journalière de soldats qui est infime, dont les mères ont à charge leurs enfants, et pour les nourrir, il faut qu'elles travaillent, qu'elles se procurent un peu d'argent, puisque le mari, père, est trop loin et ne peut pas y subvenir. Donc les écoles continuent. Alors, on a eu quelques exemples, en Aveyron relativement peu, de jeunes enfants qui nourris d'esprit de revanche, de patriotisme, vont vouloir à 12 ans, 11 ans, 12 ans, vouloir faire la guerre. Et on signale ces jeunes qui partent à l'aventure, dans des conditions qu'on imagine mal aujourd'hui, qui arrivent à prendre le train, à se retrouver à Paris, parfois près du front, pour être soldats. Ce qui va poser évidemment des problèmes à l'armée de voir ces enfants arriver et qui seront rapatriés, tant bien que mal, dans leur famille.
Et on nous parle toujours de la guerre en France, mais comment ça s'est passé en Allemagne ?
On parle surtout de la guerre sur le sol français. Étant bien entendu que d'autres fronts ont eu lieu, notamment dans les Balkans, plus loin en Turquie, voire dans le Proche-Orient. Il y a eu aussi un front en Afrique. Nos colonies françaises ou allemandes ou belges ou britanniques pouvant être proches, il y a eu aussi des combats dans ces pays. Alors, sur le sol français, vous avez pu voir l'importance des dégâts, des destructions, des millions d'hectares anéantis, des forêts disparues, des villes bombardées, des destructions colossales. En Allemagne, il n'y a pas eu cet aspect. Ce côté de destructif n'a pas eu lieu puisqu'il n'y a pas eu de combat en Allemagne. L'armistice intervenant le 11 novembre, il faut savoir que cet armistice est accepté par l'Allemagne, mais surtout par l'état-major allemand pour éviter justement que la guerre ne puisse se dérouler sur le sol allemand. Il y aura ensuite une exploitation politique de ce fait. En Allemagne, ça s'est très mal passé progressivement parce que les effets de la guerre, même si elle est hors du territoire allemand, déstabilisent complètement son économie. Deux raisons à cela. Cette guerre coûte cher à l'Allemagne. Et puis l'Allemagne, progressivement, se trouve assez isolée. Elle ne peut pas bénéficier ou trop peu de l'aide de quelques alliés. Donc c'est son économie qui doit supporter le coût de la guerre. Ce qui entraîne une inflation énorme. Mais surtout, l'Allemagne va subir, du fait de la guerre, un blocus économique. Et là, c'est l'avantage évidemment de la maîtrise des mers exercée par les Britanniques et par la flotte française qui vont, par ce blocus maritime, empêcher l'Allemagne d'acheter à l'étranger et de pouvoir s'approvisionner par mer. Comme les États-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne et deviennent nos alliés, aux Britanniques et aux Français, cela va encore amplifier les effets du blocus et les difficultés économiques. Si bien qu'à partir de 17, la situation en Allemagne devient extrêmement difficile économiquement. Humainement, c'est terrible par les morts, par les souffrances imposées, par les privations, et c'est une économie qui va devenir progressivement exsangue, qui n'arrive plus à satisfaire les besoins de son armée.
14-18. 100 ans déjà.
Nous poursuivons la chronique par une nouvelle carte postale de Monsieur Cotte. Celle-ci est adressée à sa femme Augustine pour sa fête. Un dessin illustre la carte. Le devant est sur un fond blanc cassé. Un bouquet de fleurs sauvages, bleutées, aux feuilles verdoyantes, accompagne une hirondelle au cœur d'un nuage. Au-dessous de l'oiseau, un poème de Lamartine est inscrit. Charmante fleur du souvenir, qui défendait d'oublier, par la pensée, vous pouvez réunir les cœurs qui sont éloignés. Louis Cotte a écrit « Bon baiser pour ta fête ». Et à gauche du bouquet, il a de nouveau écrit « Bonne fête Louis ».
Nous passons maintenant à la lecture de la carte. Le 25 août 1915. Bien-aimée Augustine, à l'occasion de ta fête qui est après-demain, je t'envoie cette petite carte qui me sera mon interprète auprès de toi pour t'exprimer l'amitié que j'ai toujours pour toi. J'aurais de beaucoup préféré être près de toi pour te la souhaiter, mais hélas, il n'en est pas ainsi. Tu peux croire que quand on réfléchit un peu, eh bien il y a des moments où l'on se demande comment on ne devient pas fou. Tu souhaiteras la fête pour moi à Auguste Tounel et à Pépé en même temps. Je suis toujours en bonne santé et te quitte encore une fois en te disant « Bonne fête mon Augustine, ton Louis pour la vie ».
S'entend déjà.
Le lycée Jean Jaurès célèbre la guerre 14-18.